Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Allez, on se tient au jus.
Salut, c'est Camille et Justine, bienvenue dans On se tient au jus. Aujourd'hui, on est avec Lou Trottignon. Coucou.
Coucou.
Comment ça va?
Ça va et toi?
Ça va bien.
Le stress déjà.
Et on boit du café.
Voilà. Et toi et vous?
Attendez, c'est quoi vos pronoms?
Et voilà, directement les pieds dans le P. Ah. Alors, Lou, si les personnes qui nous écoutent, les auditoristes, ne te connaissent pas,
pas de problème. Don't worry. We coming with an acrostiche.
Et évidemment, as usual. Or, fameuse acrostiche, of course.
Mais ça va aller assez vite, l'acrostiche, puisqu'il n'y a que trois lettres dans ton prénom.
Ah.
Pratique, ça c'est très pratique. On aime beaucoup. C'est pour ça qu'on t'a invité. Hein. ça ne faisait pas beaucoup de travail.
Enfin, donc, c'est pas le nom de famille qu'on fait. Trop mignon. Alors, Lou, elle, comme ludique, grâce à un spectacle de stand-up hilarant, il éduque tranquillement le tout public à la transidentité.
Oh, comme l'élément dans lequel il se sent à l'aise, tel le mérou, son animal totem, et aussi le titre de son spectacle.
Vous avez compris la blague. U comme Un bon moment, le podcast de Kian et Navo, Combini, Télérama, Le Monde ou Mademoiselle, vous commencez à voir sa tête de partout et croyez-nous, c'est que le début. Voilà. Sous-entendu, ça va être une star, c'est ça qu'est-ce qu'on voulait dire en fait.
C'était génial. Je pensais que elle, ça allait être lumineux, mais bon.
J'aurais pu, mais...
Mais elle a tapé adjectif en elle, c'est le premier qui est sorti.
J'ai trouvé
ludique.
Donc,
Et puis, c'est la vérité, ton spectacle, il est quand même ludique.
Oui, c'est vrai.
On est venus le voir ensemble. Donc, pour info, pour nos auditeurices, vous jouez tous les deux à la nouvelle scène.
Oui.
Voilà.
Tout à fait. Et Day bientôt, one. D'ailleurs, nous allons jouer à la suite. Attends, tu vas
c'est
pas...
Vrai.
Je vais jouer le vendredi à 21h.
Eh bien, tu seras juste après moi.
Donc, vous pourrez, si vous
la
désirez...
La suite, qu'est-ce que c'est?
C'est le nom d'une boîte. Pas du tout. On joue à la suite l'un de l'autre. C'est une expression pour dire l'une
alors là,
après
l'autre. J'ai un intermède entre nos deux spectacles.
J'ai vraiment compris.
À la suite. Et plus tard, on va jouer à la suite.
Ça fait
en plus, ça fait vieille boîte d'adultes.
Si,
boîte de 40.
À la suite.
Après la soirée, quoi. L'after soirée.
Non,
c'est la suite de la vie.
Pour moi, c'est la suite.
Ah. Pour moi, c'est la suite du dîner et ça va être échangiste.
Ouais.
Ah, aller en cours, c'est sûr que c'est un peu échangiste.
Ah ouais?
Oh, si, c'est un peu libertin.
La suite.
Ouais, libertin, mais pour les 45 ans, tu vois.
Ouais, je capte.
Bon, en tout cas, tout ça pour dire
rendez-vous
que
à
la nouvelle scène, de mai à juin, enfin mai et juin en fait, parce que c'est deux mois qui suivent, qui sont à la suite,
de mai
vous pourrez profiter d'une excellente soirée en venant voir Lou à 19h30.
Tout à fait.
Et suivi de Camille Giry,
moi-même,
à 21h.
Excellent.
Et qu'est-ce que je veux dire? Bah, rien de mieux en fait.
Ouais. Mais est-ce qu'on ferait pas des offres?
Est-ce qu'on fera un petit flyer moitié-moitié, tu sais, où on fera moitié visage?
Ah, vous allez faire un code promo Camélou et moi, comme ça, pour avoir des tarifs réduits, moi je suis éjectée de tout projet.
Excuse-nous, tu veux faire
un
notre première partie? Entre les deux, si tu veux, entre les deux, il y a un petit trou, il y a 30 minutes.
Vous savez que dans Roger Rabbit, il y a Bit. C'était ça.
Mais tu es parfaitement adapté au stand-up d'aujourd'hui. Donc c'est bon.
Ouais. D'ailleurs, en parlant de spectacle, Lou, petite question. Qu'est-ce qu'on te dit le plus après ton spectacle? Quels sont les commentaires que tu reçois le plus?
Je crois que ce qu'on me dit le plus, ça dépend qui. Est-ce que c'est des gens concernés?
Ah, ça,
des
gens justement, pas concernés. Ça
c'est
peut...
nous un petit florilège.
Petit florilège. Je crois que le truc qu'on me dit le plus, qu'on m'a le plus dit dernièrement, c'est « Ah, je m'attendais pas à rire ».
Ouais. C'est un spectacle d'humour quand même.
Oui.
Je veux dire, c'est pas comme si tu faisais Phèdre et on est plié de rire.
Non, mais
là,
les gens
c'est surprenant.
Peut-être
c'est
venir
Phèdre
un
en
peu
version trans.
Les gens pensent venir peut-être un peu à une conférence, genre.
Non, mais en fait, il y a les deux. Il y a les gens qui ne sont pas forcément concernés, mais qui aiment l'humour, qui aiment voir les spectacles, qui ont entendu parler de moi et qui viennent et qui disent « Ah, je m'attendais pas à rire de ces sujets sans rire des personnes trans. » Et ça me concerne pas, du coup, je pensais pas rire pendant une heure, mais en fait, si. Et il y a les gens qui sont concernés, mais qui n'ont pas vu de stand-up depuis longtemps parce qu'ils n'étaient pas représentés, et qui du coup à chaque fois me disent, moi en plus, j'aime pas le stand-up, mmh, mais là tu m'as
oui.
fait rire.
Ah oui.
Donc c'est un peu les deux. C'est un commentaire doux amer.
Mmh. Ouais. Oh, bah je sais pas, ça a l'air d'être
quand,
sympa.
Quand ça vient des personnes concernées bah, en fait, qui si... disent, je retrouve le stand-up oui. machin, mais quand ça vient des gens genre des programmateurs en comedy club où je fais un passage en comedy club et ils me disent, ah quand je t'ai vu arriver, je m'attendais pas à rigoler. Ah, là ouais, c'est un oui, peu doux amer. Oui. Tu vois.
Ouais d'accord. Bah, il a fallu que je fasse mes preuves quoi.
En ce moment, je dis souvent ça quand j'ai des interviews ou des moments où je dois
non, mais
parler.
Vas-y, tu peux te la raconter. Enfin, non, pas la peine de lever les yeux au ciel quand tu dis quand je suis en interview.
Quand je suis en interview, enfin ouais, n'importe
parce que
quoi.
C'est mon quotidien, ça ouais. me paraît pas.
Non, j'ai... non, mais en gros, souvent, bien sûr, qu'on nous pose la question, ça fait quoi d'être une fille dans le milieu du stand-up ouais. Et nous, on nous dit, ça nous fait quoi d'être une fille sur YouTube ouais. Si on va au cinéma, ça fait quoi d'être une femme au cinéma? Enfin, de toute façon, ça fait quoi d'être une femme ouais. Ou en tout cas, de ne pas être un homme cis. Ouais. Et en l'occurrence, là, dernièrement, je me rends compte que j'ai théorisé quelque chose, genre je viens de l'inventer. Non, mais je suis sûre de moi.
La non. libération des femmes, c'est pour tout le monde.
Non, mais le fait que les gens ont un a priori négatif lorsqu'une femme ou une minorité de genre monte sur scène. Et du coup, on part avec un moins deux, c'est-à-dire qu'ils ouais. partent en se disant ça va ouais. pas être marrant. Ouais. Et si
beaucoup
on est marrante,
du coup,
par contre, ça peut être une grande victoire parce qu'effectivement, ils peuvent oui. se régaler, ils peuvent nous mettre sur un piédestal, dire ouais. ah, pour une femme, pour un trans, etc. T'es marrant, je m'attendais pas à ça. Ouais. Donc quelque part, le résultat peut être positif, mais de base, on a un a priori négatif. On part ouais. avec genre moins deux sur la ligne de départ. Ouais. Or, quand un mec cis monte sur scène...
Aucune attente.
Si, il y a un a priori positif. La vérité, j'en suis ouais. sûre et certaine. Mmh. Il part du principe que ça va être marrant. Et par contre, ça peut être décevant. Il peut être nul, il peut être claqué.
Oui, oui mais c'est pas grave s'il est décevant. Il y a un truc où... Ah, bon,
oui,
bah, c'est cette
barre.
En fait, il sera,
bah,
il
on
sera
en
jamais...
attend pas tant.
Et surtout,
on met pas la barre très haut.
Ouais. Déjà, je pense aussi. Et surtout, il sera pas décevant en tant qu'homme. Mmh. Il sera décevant lui, ouais, tout simplement. Vrai. Il ne ouais. représentera jamais son genre.
Mais il a plus de place pour échouer aussi. Quand tu vas dans tous les comedy clubs, il y a plein de mecs cis, hétéros et tout. Bah du coup, ils jouent plein de fois. Oui. Moi, je, par oui. exemple, là, j'ai fait l'émission du Jamel qui va sortir. J'ai joué que 3 fois avant l'émission. Et j'étais là, mais si je rate. Enfin, ouais. tu vois, j'avais que 3 ouais. chances, quoi. Et
ouais, c'est une pression plus.
Ouais, mais dans tous les comedy clubs, hein, c'est pas spécifique.
Parce que toi, tu passes dans des comedy clubs, tu fais des 5 minutes.
Ouais, je fais ça, je vais en comedy club, mais là, tu vois, j'y vais moins parce que ça pèse quand même un peu. Et bizarrement, c'est pas là où je remplis mes salles, quoi.
Ok.
Genre, puisque c'est pas du tout mon public. Par exemple, au Fridge, c'est pas du tout mon public.
Oui, c'est ça, ce que j'allais demander. Est-ce que tu te confrontes dans des comedy clubs à des publics qui sont pas ton public?
Ouais,
du coup,
vraiment,
tu vas pas que dans des comedy clubs un peu safe, place, machin et tout?
Bah, genre... où sont-ils?
Oui. Bah, j'avoue, je sais pas. Il y en a pas.
Il
si,
y en a quelques-uns.
Il y en a, mais c'est exceptionnel. Enfin, même moi, j'ai créé la Meetup, ouais, tu vois, la mutinerie qui est. Il y a
à
que
Paris.
Des queers sur scène, ouais, à Paris.
Okay.
Que des queers sur scène, que des queers dans le public, c'est vraiment genre... Enfin,
trop bien.
Pas que, mais en majorité, quoi.
Ouais. Il y avait le Comedy Love aussi.
Il y avait le Comedy Love qui continue, mais en tournée. Il y a le Good Girls Comedy Club d'Alicia Cetou.
Il y en a quelques-uns,
oui,
mais
à l'échelle, c'est pas tous les 4 matins. C'est
après,
pas le Paname Café, quoi.
C'est ça.
Mais non, mais après, je pense qu'il y a quand même une volonté, même pour le Paname ou pour d'autres plateaux, de devenir un peu plus safe.
Oui, oui.
Mais c'est tellement en train de bouger, on va dire qu'on partait de loin.
Ouais.
On arrive un tout petit
à
peu.
À tâtons.
Ouais, à tâtons complètement. Et il y en a certains qui s'en fichent encore. Voilà, très clairement.
Ouais.
Mais c'est extrêmement courageux. On en a déjà parlé en off avec Lou, mais. C'est courageux, mais du coup, c'est fatigant.
Ouais,
parce que c'est partagé, je suppose, sans parler à ta place, mais entre moi, je fais de l'humour féministe, on va dire, complètement, et j'ai pas toujours envie d'aller faire rire des gens avec qui, dans la vie, j'ai pas envie de parler, en fait.
Ouais.
Ouais.
Donc, c'est bien beau de
ouais.
dire je vais éduquer un peu, mais à quel prix? Au prix d'une fatigue infinie, parfois. Tu peux même avoir de la violence
Directement,
directement envers toi, envers ce que t'es, et bon, à un moment, ça va, quoi.
Ouais, mais tu tiens le coup. Enfin, moi, j'étais là, non, mais vas-y, c'est pas... Enfin, en fait, le truc le plus dur, c'est de pas savoir si là, ça se passe pas bien, parce que les gens sont transphobes ou sexistes ou j'en sais rien, ou parce que tes blagues, il faut que tu les travailles.
Ou si c'est toi qui est pas... Ouais. Bah oui,
mais des fois, c'est impossible de savoir, quoi.
Ouais. Oh là là, ça me paraît vertigineux.
Et on a créé de l'angoisse.
Ouais. Tu m'étonnes.
Attends, changement de sujet. On va faire un petit virage. Ah non, tu voulais continuer?
Non, je voulais juste dire, il n'y a pas votre prod qui a fait une charte de
C'est plutôt Jessie.
C'est Jessie.
Ah oui, de votre.
La directrice
de la nouvelle scène.
Voilà, ouais, c'est ça.
Une charte de safety.
Qui essaye de mettre ça en place.
Enfin, qui a mis ça en place.
Ouais,
enfin,
qui a proposé. Tous les comedy clubs et tout.
Je l'ai vu un peu partagé sur les réseaux. Et le but, c'est quoi? C'est de ne pas faire travailler des agresseurs, en gros, un peu.
Bah, le but, c'est de dire que, justement, les gens qui ont le pouvoir prennent parti. Nous, c'est bon, on a déjà pris position.
Les programmateurs.
Les décideurs et les programmateurs. la programmatrice ne nous aide pas, on n'avancera pas. Et du coup, Jessie, sa volonté, c'était justement de proposer une charte qui est à destination, si je ne me trompe pas, des directeurs et directrices de théâtre ou des programmatrices ou des programmateurs.
Oui, et puis aussi que ce soit affiché dans les loges et tout, puisque la charte dit il faut que, enfin voilà, des numéros, s'il y a des agressions, des comportements, c'est pas normal. Et mine de rien, ça change tout, parce que moi, le nombre de trucs que j'ai vu dans les loges, et si t'as un petit écriteau juste là, n'hésite pas à en parler, parce que la plupart du temps,
on n'imagine pas
je vais
le pouvoir de ce genre de.
Ouf,
de savoir que tu peux aller en parler normalement à la personne en charge et que la personne va t'écouter. Alors, on n'est pas à l'abri que finalement elle t'écoute pas, mais en tout cas.
Le fait de le dire beaucoup, ça implique. Par exemple, le théâtre qui a programmé Harry Habitant, il a signé la charte de.
Bah déjà, la charte, elle vient d'être créée.
De la safe.
C'est dur, mais c'est dur parce que là,
c'est
moi,
une blague
je vais jouer.
Que je
non,
fais.
Mais parce que c'est. Oui, mais pas rigoler, je suis humoriste, je vais faire votre première partie, merde. Notre entr'acte. Non, mais ça, en vrai, ça me questionne.
On n'a pas de seconde clé.
Pour aller. Non, j'ai pas. Là, il n'y a pas longtemps. Enfin, dans quelques temps, je vais aller jouer à Troyes, au théâtre qui s'appelle le 3 fois plus. Et je reçois des messages de gens qui disent tu sais que Harry Habitant a joué plusieurs fois là-bas.
Ah, bah oui, bah, et en fait, oui, bah tu
non,
vas pas
là,
fouler le sol.
Non, non, mais il n'a pas joué il y a 10 ans. Hein. Il a joué, il vient de jouer là, pendant son rodage, de son spectacle de fils de chien. Là.
Spectacle s'appelle Fils de chien. Je sais pas si vous êtes au courant.
C'est le spectacle. Et il commence par je sais pas si vous avez remarqué, mais qu'on viole des meufs maintenant. On est dans la sauce, en fait, aujourd'hui. Avant, c'était mieux.
Mais en plus, il a fait une citation il n'y a pas longtemps. J'ai vécu dans le noir pendant 7 ans.
Mais oui, il a mis une vidéo de son retour sur scène avec la musique I Will Survive.
Oh c'est là là, tout est indécent. Tout est une meuf noire et tout.
Ouais, bah oui.
Mais non.
L'indécent. L'indécence au paroxysme.
J'ai senti la saturation de ma colère.
Et tout ça pour dire que voilà, on ne sait pas. En fait, c'est un moment, c'est dur de se dire bah, du coup, je ne vais pas jouer là-bas. Parce qu'ils l'ont programmé.
Bah parce qu'on s'enlève des opportunités à cause des.
Et j'enlève aussi des.
Aussi.
Pardon, sans me jeter des fleurs. Et j'enlève l'opportunité aux 100 personnes engagées féministes qui sont trop contents que je vienne dans leur ville.
T'as
je leur enlève
20,
ça. Non, j'en sais rien, j'ai dit n'importe quoi.
Moi, j'en ai 5.
Mais j'espère que j'en aurai.
C'est ça que la panique.
Non, j'espère que j'en aurai.
5 personnes qui viennent.
Non, mais on en aura
déjà.
On en aura
déjà
plus.
Aux 5 personnes.
Mais même. Oui. En fait, on en enlève à eux et on leur laisse plus que les agresseurs qui vont jouer chez eux. En fait, c'est dur comme débat, comme conversation.
Bah, c'est dur. C'est ce que tu veux. C'est comme si on te propose d'aller sur TPMP. Non, bon, c'est pas un très bon exemple.
Non, mais quand on nous
débat. Quand je comprends, par exemple, Rokhaya Diallo, que je trouve incroyable d'aller allé débattu sur CNews pendant
d'être
un moment.
D'être allé débattre.
D'être allé débattre sur CNews ou autre dinguerie, tu vois, qui était donc la seule meuf noire de gauche qui exprime des idées qu'on a vraiment envie d'entendre au milieu de plein de connards d'extrême droite et qui leur tient tête, enfin tu vois, en tout cas qui amène
parce qu'elle se dit, et c'est ça qu'elle nous avait expliqué surtout, elle se dit qu'elle s'en fout à ce moment-là des gens qui sont autour de sa table, elle pense à la personne qui est en train d'écouter chez elle et qui a jamais entendu ce propos-là, ce point de vue-là.
C'est une vraie question qu'on se pose aussi nous, c'est genre à quel point tu veux aller dans le mainstream, à quel point tu peux y aller avec ton discours.
Ouais, bah à quel point t'apportes ton discours dans un comedy club un peu random où il y a que des mecs qui écoutent. Enfin, c'est un peu ça, genre. Mais au prix de ta santé mentale, effectivement, et il y en a qui peuvent pas, et c'est normal. Et Rokhaya Diallo nous disait justement qu'elle était blindée de ouf mentalement et que du coup elle y allait en robot et que c'était ok. Alors,
c'est sa personnalité aussi de base. Mais sa personnalité de base, elle est très calme. Elle est très
donc elle est chaude de prendre les coups entre guillemets. Enfin,
Mais ça fait beaucoup plus mal qu'on pense. Je trouve les coups de. Ouais.
Bah c'est pour ça que il faut un terrain à la base. Si t'as un terrain anxieux, autoflagellant, etc., c'est compliqué.
Pourquoi tu me décris comme ça?
En plus non, je me disais, je parlais de moi en disant voilà pourquoi je déteste faire des plateaux mainstream. Là je vais en faire. Je suis terrifiée parce que
tu vas en faire, c'est vrai.
Bah je vais faire 2-3 un festival ou 2-3 festivals.
Oui, mais t'as 20 minutes. T'as plus le temps de. Oui. C'est ça aussi le truc en comedy club, c'est que des fois t'as 7 minutes et t'es là bon je suis trans, puis alors tout le monde est choqué, alors il faut 4 minutes pour qu'ils se détendent, ensuite ils commencent à rigoler, ils sont là ah, bah on t'aimait bien à la fin, oui bah
au début j'ai eu peur quand t'as dit que t'étais trans
pendant 4 minutes
et puis finalement
mais tu sais que je vois dans leur visage genre vraiment se décomposer, le genre oh putain ça va c'est drôle avec quelqu'un qui a rigolé. Ah, je peux rigoler.
T'es à moins 2, t'es monté à moins 1, 0, 1. Putain.
Mais moi, mes passages dans les comédies club mainstream, ils font vraiment genre, ils commencent bas et ça monte très fort. Donc, c'est l'avantage, ça monte très fort.
Ah ouais, les gens se détendent en direct, quoi.
Ouais. Mais c'est impressionnant.
C'est fou.
C'est impressionnant à voir. Mais ouais, pour revenir au truc de. Je reviens sur le Jamel, parce que pour moi, c'était un grand rêve de faire cette émission. Et du coup, et c'était la question de, bon, devant le public, mon sketch qui parle de transidentité parle beaucoup moins. que de quand je le fais dans d'autres plateaux, dans mon spectacle. Et du coup, c'est un peu vexant aussi pour soi-même,
oui,
d'avoir le sketch qui cartonne dans ton spectacle juste devant les gens. Bon, ils ont du temps pour se détendre, mmh, parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Surtout dans un lieu aussi mainstream que le Jamel, et encore qui est le plus ouvert, je trouve. Et je me suis dit, en faisant l'émission, je le fais pour les... C'est filmé, quoi. Oui. Je le fais pour les gens qui vont voir la vidéo YouTube et tout. Et du coup, le moment était incroyable, alors que le public était hyper timide. Ah. Mais moi, j'ai kiffé, j'ai laissé les silences, machin. Ouais. Mais c'était vraiment ça, genre penser...
Oui, tu t'as projeté les gens chez eux, ouais, qui voient quelque chose qu'ils avaient peut-être jamais vu avant ou pas.
Bah, attends, c'est jamais une force... personne trans je crois... ou Jamel.
Ouais.
Il y en a pas eu, on est d'accord.
Je sais pas, je connais pas assez le milieu. Enfin, je connais pas du tout tout le monde en stand-up, mais effectivement, en tout cas, de connu, non, il y en a pas.
Ou qui dit je suis trans, en tout cas, sur scène. C'est le sujet de
son. Oui, mais on en connaît pas.
Et y a qui, sinon, si on peut faire des recos, hormis toi?
Figure-toi que dans le stand-up en particulier, il y a que moi en France.
Ouais.
Ah ouais.
Après, il y a dans le One Man, il y a Océan.
Ouais.
Mais il est pas dans les comedy clubs et tout. Après, t'as Lorraine Marx, qui est une meuf trans qui fait du stand-up triste.
Mmh. Oh, j'adore. Ouais. Oh.
Ça m'intéresse tout à fait.
Ouais, et tu viens chialer, du coup?
Bah, en fait, c'est je crois, hein, voilà, je veux pas prendre ses mots à sa place, mais c'est ce qu'elle disait, c'est qu'elle a commencé via le stand-up, elle est vachement la culture stand-up, et en fait, ça lui permettait pas, à son avis, de parler assez bien de sa transidentité. Elle voulait pas jouer l'autodérision, elle voulait pas faire ça. Du coup, c'est une sorte de performance stand-up triste qui reprend les codes du stand-up, mais c'est pas un spectacle d'humour à proprement parler.
Ouais, ok. Oh, intéressant.
Ouais. Non, non, c'est vraiment bien. Du coup, il y a Lorraine Marx quand même.
Bah oui, toi, t'aimerais trop. Mmh. Ça m'intéresse.
Ouais, ouais, puis c'est hyper beau et tout. Alors, elle a deux spectacles. Le premier, zut, vous regarderez.
On regardera sur tout le monde internet.
Et là, elle a écrit un nouveau qui s'appelle J'habite dans une maison vide, quelque chose comme ça. Enfin, genre, c'est très poétique.
Ah oui, ok.
Mais tu as lancé des vocations un peu, tu penses? Enfin, non, peut-être j'exagère en disant lancer des vocations, mais est-ce que tu constates,
Que
ne serait-ce que par
portes.
Les lieux, le meet-up, la meet-up,
ouais,
les soirées à la mutinerie, déjà avec que des personnes queer, est-ce que du coup ça voit, tu vois émerger?
Oui, de ouf. Je faisais des ateliers d'écriture. En fait, j'ai remarqué qu'il y avait très peu de personnes queer dans le stand-up et il y avait zéro personne trans. Et au début, je l'avoue totalement, mais au début, j'avais peur qu'une nouvelle personne trans arrive. Mmh. Mais parce qu'on nous apprend qu'il y a qu'une seule place,
la chaque catégorie. Syndrome de la Schtroumpfette, on est là-dedans.
Et du coup, je me suis dit, pour éviter ça, je vais rencontrer les gens, les personnes queer et trans qui veulent faire du stand-up, et je vais ouvrir des ateliers d'écriture où j'étais pas du tout en mode je vous donne des conseils ou des techniques, juste je vous dis vous pouvez écrire avec la technique hyper ancienne de la maïotique, genre en fait ça sort de vous, moi je suis juste là pour cadrer si vous avez besoin. Et du coup c'est vrai que beaucoup de personnes ont continué après, pas du tout que ça vient de mon atelier, mais d'avoir ouvert ça, je me suis dit ça ouvre un lieu safe pour que les personnes se lancent, parce qu'une meuf trans qui se lance dans un open mic à Pigalle, évidemment t'arrêtes le stand-up après.
Ouais, c'est trop violent.
Tu vois, du coup je me suis dit qu'il fallait un lieu safe pour commencer, comme moi j'ai commencé dans un atelier d'écriture avec Tani, quoi.
Oui, ça allait être ma première question. C'est comme ça que t'as démarré le stand-up?
J'ai démarré avec des cours très lambda, genre Alex Nguyen et tout. Je crois qu'on est beaucoup passé par là. C'est des petits cours une fois par semaine. On ne devait écrire 3 minutes. Mais j'ai failli arrêter parce que c'était hyper sexiste. Mes premières scènes, j'ai eu du sexisme très vite. Parce qu'à l'époque, j'étais une meuf... je me considérais comme une meuf hétéro. Enfin, les gens me considèrent... Bref, c'est compliqué. J'étais dans le déni. Et du coup, j'ai voulu arrêter. Et puis, j'ai vu que Tani faisait un atelier d'écriture. Et je me suis dit, vas-y, j'aime trop Tani. Je vais y aller. Et l'histoire qu'on raconte souvent, c'est que j'y suis allée avec un mulet et un costard. Et j'ai dit, je suis hétéro, je peux venir. Et Tani a dit, oui.
Parce que t'es pas du tout hétéro.
Je pense que tu mens.
Oui, je pense que tu mens.
Ouais.
Elle savait avant toi.
Ouais. Et ça a été incroyable.
Et alors attends, parce que du coup, justement, on parle là un peu d'identité. Ouais. Je crois que c'est un sujet que tu commences ou que tu abordes maintenant dans ton spectacle, mais qui nous intéresse beaucoup. C'est du coup, comment on fait quand on est finalement un homme blanc, hétéro, mais qu'on est quand même féministe et misandre, et qu'on n'est pas une minorité de genre. Enfin, tu vois, comment tu...
Bah alors moi, je suis pas hétéro, du coup.
Ah oui.
Ouais.
T'as tout mélangé.
Non,
mais attends, c'est ok. Mais c'est quand même une question en effet que je me pose dans mon spectacle, du fait de devenir un homme blanc, quoi.
Oui,
je serai un homme blanc de 50 ans.
Qui sera...
C'est
ça que je veux dire, ça doit. Tu seras quand même. Ouais, tu seras un homme blanc de 50 ans, en tout cas, probablement aux yeux de la société.
Oui, mais gay, du coup.
Ouais, gay quand même.
Oui, mais bon, ça reste quand même dans la rue, a priori, selon comment je m'habille.
Pas forcément visible.
On sait pas. Et puis, je suis gay queer. Alors, des fois, je sors avec des meufs quand même.
Ouais.
Mais parce que c'est. Enfin, bref.
C'est compliqué. Parce que c'est plein de spectres, comme on dit.
Oui, voilà.
Le spectre est large. Juste,
c'est plein de spectres.
Plein de fantômes.
Ouais,
de
spectres. En plus, moi, je suis les lesbiennes.
Non, mais c'est vrai que ça devient hyper compliqué, le monde queer, même pour nous. Hein. C'est genre, I'm gay.
Oui, mais parce qu'on. En fait, parce qu'on rebat les cartes. Parce que l'idée, c'est peut-être de se dire, venez, on s'en fout un peu plus. Après, on a parfois besoin d'étiquettes.
Oui, est-ce que le projet, c'est d'aller vers plus d'étiquettes? On est d'accord que c'est un peu ça le projet général?
Elle lève la main.
Hein oh, hein ouais, est-ce qu'on est bien d'accord?
Oui, et en même temps, avec quand même un besoin, je crois,
c'est ça,
d'appartenir à une communauté.
Bah, bien sûr.
Mais l'idée, c'est surtout devenir un homme blond de 50 ans quand toute ta vie, ça a été ton oppresseur, d'une certaine manière.
Ouais, mais ça, c'est flippant.
C'est-à-dire que tu passes de l'autre côté de la barrière. C'est... Effectivement, ça doit... en vrai, ça doit questionner, j'avoue. Est vrai que...
Bah oui, mais si tu deviens un homme blanc de 50 ans, bien.
Ah.
Tu veux dire que je vais changer le monde?
Entre autres. Non, mais tu vois, j'ai horreur de dire ça, mais pas tous les hommes. Bah, c'est vrai, il y en a deux, trois qui sont quand même... Non, mais pas plus. Hein, par contre,
je vais devenir un Nottleman.
Pas.
Pas moi.
Deux, trois.
Moi, regardez.
Non, mais tu vois, du coup, si t'es un homme blanc de 50 ans, oui. Bien, bah, c'est cool. Enfin, oui. Moi, je trouve ça assez cool d'être l'oppresseur bien.
L'oppression,
tu vois ce que je veux dire? Bah, si, bah, comme en vrai, nous, ce qu'on essaie de faire en tant que femme blanche.
Oui. Mais c'est quand même quelque chose de ressembler physiquement.
Oui,
oui voilà.
À ton oppresseur.
Oui, oui.
Ça, c'est trop.
Non, mais tu mettras
bizarre.
Pas de costard non plus. Hein. Bah, avec une petite mallette,
si.
Ah, une
non, mais
mallette.
Costard mallette dans la rue, en mode, là, tu seras vraiment l'homme blanc de 50 ans qui sort de la défense
financier.
En flemme.
Oui, voilà.
Tu sais, quand j'étais petite, je pensais qu'être comptable, c'était vouloir mourir.
Pourquoi?
Que quand quelqu'un me disait, je sais pas pourquoi, bon, si, je sais pourquoi, mais.
Quoi?
Mon oncle était comptable et d'aller
mettre
très bien.
Il était mort à l'intérieur.
Il est vraiment. Oh et à l'extérieur aussi. Oh, non, mais. Et du coup, pendant longtemps, je pensais qu'être comptable, c'était genre, quand quelqu'un disait, oui, je suis comptable, je répondais, ça va.
T'avais une vision de.
Je pensais
comptable
que c'était le métier que tu choisissais quand tu voulais mourir bientôt.
Bah, pour moi, c'est un peu ça. Enfin,
alors que.
Non, toi, t'aimes bien.
Non, j'ai... Ah non. Ah, bof. Non, pas particulièrement. Non, moi, j'aime bien les métiers de paperasse. Ça me dérange pas du tout.
Oh,
mais
wow.
Comptable, pour moi, c'est le premier métier chiant. C'est-à-dire que, tu vois, quand je faisais de l'impro et des trucs comme ça, dès qu'il fallait dire un métier,
oui.
Lambda, c'est un peu pour celui-là, moi, c'est comptable.
Tu vois, ouais, je capte.
C'est comptable. Parce que dans l'idée, tu comptes, quoi. Fou.
Et tu tables. Okay. Allez, ça
allez.
Fait rire, Justine. Je m'en fiche, ça la fait rire.
Moi, je suis très, très bon public et friande.
J'ai tout vu au spectacle. T'étais au premier rang.
Oui,
j'ai flippé, j'étais là.
Camille, elle était là. Ouais, on est allé voir Lou, du coup, il y a pas longtemps avec Camille au théâtre. Et il y avait plus que les places tout devant ou tout derrière. Mais c'était hors de question que
tout derrière,
tu te vois
chiant.
Comme ça. Ouais. Enfin, la flemme. Et donc, j'ai vraiment insisté à Camille. Elle était là.
Ça
non, ça se fait pas qu'on vienne tout devant. Il va
non,
être stressé.
Non, ça m'a fait plaisir. Ça m'a pas stressé, vous, voilà. Bizarrement, ouais.
Et on était tout devant comme ça.
Bah, oui.
On a mis nos plus grands sourires.
Non, vous étiez
oui, bah,
super.
Par contre, on a...
D'ailleurs, j'en profite. Petit message. Si vous faites partie des gens qui allaient voir des spectacles, notamment des spectacles d'humour. Si vous aimez vous mettre au premier rang, pas de problème, mais souriez.
Ouais.
Ah, les gens qui se mettent au premier rang alors qu'ils savent
et
qu'ils ont une resting bitching
gueule.
Face
ouais.
Ou une poker face
moi,
ou qu'ils sont pas bons publics,
barrez-vous
de là.
Ça doit être terrible.
Ça doit être terrible.
Non, c'est un enfer.
Bah, moi, toi, tu vas jamais avec ta tête.
Non, moi, je vais jamais.
Ta tête.
non, mais les fois où ça m'arrive,
oui.
Où je suis,
bah,
je souris. Ah, je souris au minimum, j'envoie de la force parce que c'est difficile comme exercice. Et vraiment, à moi, quand j'ai des gens au premier rang qui font la gueule, je suis là. Et ça veut pas dire qu'ils aiment pas, en plus, c'est pas du tout un signe, je le sais. Néanmoins, à l'instant T, ça donne aucune force. C'est terrible.
C'est ça qui est dur. Genre, une seule personne qui a l'air de pas kiffer, il y a 120 personnes qui kiffent.
Ah ouais.
Il y a une personne sur les 120 qui kiffe pas, je ne pense qu'à
déjà,
cette
voilà.
Personne.
Non, mais c'est surtout que.
Et moi, si je faisais ce que vous faites et que ça m'arrive, j'aurais envie de lui parler direct. Genre.
Bah, ça va pas.
Ouais, mais bon, tu peux pas.
Mais c'est surtout qu'il y a vraiment, notamment à la nouvelle scène, mais c'est pratiquement comme ça dans toutes les salles, on voit les trois premiers rangs et derrière, on ne voit rien. Donc, mettez-vous derrière.
Ouais.
Vous pourrez faire la tronche. Comme vous voulez, on vous
comme
verra
bon
pas.
Vous semble.
On s'en fiche. Ouais. Mais ne venez pas dans les deux premiers rangs, bon sang. Enfin, bon, voilà.
Juste pour répondre un tout petit peu avant sur homme blanc de 50 ans, là, devenir un homme blanc de 50 ans. J'ai eu une nouvelle réflexion il n'y a pas longtemps.
C'était il y a une heure, mais vas-y.
La question, ma réflexion.
L'homme blanc de 50 ans.
Ah oui.
Je peux revenir dessus.
C'est pas grave, mais tu rigoles. Là, les gens, à l'écoute, ils se disent, ouais. Oh bah ouf, putain, on avait pas vu la fin de la phrase.
Tout le petit public TDAH. L'histoire. Non, mais je me suis fait une réflexion il n'y a pas longtemps, parce que sans pouvoir trop en parler. J'ai vécu un truc de transphobie il y a pas longtemps, quoi. J'avais peur de devenir un oppresseur. Et en fait, je me suis dit, c'est impossible et c'est injuste. J'ai beau transitionner jusqu'au bout, c'est-à-dire vraiment, je fais toutes les OP, machin, jusqu'au bout, dans leur définition à eux. J'ai une barre, machin, je ne serai jamais un mec cis.
C'est ils ne le savent pas, en vrai. Si, oui, une fois que tu as un passing. Un passing, c'est-à-dire, pour les personnes qui nous écoutent, si vous ne savez pas, le passing, ça veut dire l'apparence, enfin, comme quelqu'un, une personne homosexuelle, mais que ça se voit pas, une personne qui aurait des qui serait métisse mais qui paraîtrait blanche, qui a un passing de personne blanche alors qu'en fait
ça n'a rien à voir avec le passé.
Non, oh, t'es trop
non le passing c'est
attendez éduquez-moi, c'est à dire que là, le passing, imagine c'était genre imagine toi le avant le avant de la personne.
Non, le passing c'est que toi si
comme un mec
toi si t'étais lesbienne par exemple, Justine, t'as pas les cheveux courts, t'es pas camionneuse, vu que c'est évidemment ça que font les lesbiennes normalement.
Oui, bah oui, tout, tout.
Du coup t'aurais un passing hétéro, même quand bien même tu serais une personne queer, tu vois ce que je veux dire. Il y a des personnes qui sont arabes, passing, on dirait, j'ai une copine, elle est kabyle mais elle est blonde aux yeux bleus, elle a un passing blanche totalement. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et donc Lou, en fin de, une fois que t'as fini de transitionner, il y a des hommes trans qui ont un passing,
enfin tu finis pas vraiment de transitionner.
Non, pardon,
ça c'est ce qu'ils imaginent.
Oui, voilà,
oui,
si,
c'est vrai.
Si tu vas juste, non, mais t'inquiète, projette que. Mais ouais, c'est quand t'arrives à avoir un passing qui correspond aux normes, en tout cas.
Voilà.
Mais même là, en fait, c'est déjà moi, mon travail, c'est d'en parler sur scène.
Oui, mais c'est ce que j'allais dire, parce qu'en vrai, ils en savent rien. Il y a des, moi, ça m'arrive de suivre des comptes de personnes et après, je me rends compte par leur contenu.
Ouais, mais c'est des gens souvent qui ont des... c'est très difficile d'avoir un passing.
Ah
quoi.
Ouais.
Bah déjà, la voix, faut la travailler, faut pouvoir se payer orthophoniste. Ouais. Tu te muscles, ta graisse, enfin tu vois, il y a
est-ce que ça
trucs
dépend au, le moment de ta vie où tu passes.
Mais non,
tu
c'est pas ça le
non,
non, mais le passing c'est
où
pas
tu transitionnes.
Le passing c'est
les gens,
c'est
ce que tu renvoies.
Ah, bah, okay, ouais,
là
par
exemple,
ah putain, mais
moment,
alors
j'ai,
enfin,
ouais, j'ai de plus en plus un passing masculin parce qu'on m'appelle de plus en plus monsieur, alors qu'avant c'était
ça correspond à l'apparence.
Voilà, exactement.
OK. Vas-y, parlez français aussi. Bah, c'est, je sais pas quel est le mot en français de ça.
Apparencing, s'il vous plaît.
Bah, c'est dire je passe pour.
Ah, d'accord. Je passe pour. Ah ouais.
Passing,
ah, terrible. Dans les yeux de ce qu'on y
bah, c'est-à-dire que ma pote, ma fameuse pote, par exemple, qui est kabyle, elle peut pas tellement dire qu'elle est victime de discrimination raciale.
On la croit
raciale,
pas comme ça sur le papier.
Parce que elle a pas l'air.
Elle a l'air blanche, quoi.
Voilà, a priori, elle subit pas forcément des discriminations raciales vu
au
qu'elle
visage,
a l'air blanche.
Au faciès. Ok, voilà. D'accord.
Mais après, tu peux vivre des oppressions, par exemple, surtout dans le cadre des lesbiennes qui sont dites avoir un passing hétéro. C'est très difficile aussi parce que t'es complètement invisibilisé de la communauté lesbienne ou bi. Et ouais, par rapport. Enfin, oui, tu peux avoir un passing et tout, mais déjà, moi, mon travail, c'est d'en parler sur scène.
Effectivement.
Ensuite, il y a des nouvelles lois qui commencent à arriver où on va être fiché.
Ouais. Fiché quoi?
C'est-à-dire qu'il y aura un document avec toutes les personnes qui ont changé d'état civil. Parce que normalement, tu fais un tu changes d'état civil et puis c'est bon. T'es passé.
Ouais.
Et en fait, là, maintenant, à vérifier, mais dans le truc familial, là, le livret familial. Ouais. Avant, tu pouvais changer, mettre vraiment
Et là, il y aura le.
Et là, il y aura le.
Il y aura le dead name et le.
Dead name, je sais pas, mais le sexe assigné à la naissance.
Mais parce que. Attends, non, mais
pour quel,
dire, non, mais
pour quel intérêt du
oui,
coup,
mais parce que.
Pour ficher les personnes trans, pour. Oui, oui.
Mais ça sert à quoi? Enfin, oui, non, mais c'est pas toi qui as la réponse, mais. Mais enfin. En vrai,
ça sert à servir l'extrême droite.
C'est ce que j'allais dire. J'allais
info,
exactement
passé,
dire.
Hein.
Voilà, c'est bien
c'est
a,
passé,
d'avoir un gouvernement d'extrême droite. C'est super. C'est vraiment agréable.
Ouais.
Ouais, mais là, ils voulaient interdire
les transitions pour
les transitions
mineurs,
pour les mineurs, alors que je crois que c'est déjà plus ou moins pas possible.
En fait, les seules.
Tu peux pas tellement commencer
opérations
les hormones
médicales.
Si.
Tu peux commencer les hormones, mais déjà à 16 ans.
Oui, voilà.
Donc quand tu as fini ta puberté. Oui, oui. Tu peux les commencer plus tôt aussi. Il y a des bloqueurs de puberté, mais qui ne sont pas définitifs. En fait, les bloqueurs de puberté.
Ils me cassent les mains.
C'est pas. Même moi, je prends la testo. Si j'arrête la testo, mes poils ils tombent, ma voix elle redescend.
Oui,
enfin, il n'y a rien qui est définitif, à part les opérations.
Et encore,
oui. Bah après, faut avoir la thune pour changer.
Oui, évidemment. Ouais, je dis, mais de toute façon, ça les regarde. Enfin, bon, après, c'est.
Mais les opérations ne se font pas sur des personnes impubères, parce que tu ne fais pas une opération de réassignation sexuelle sur une personne qui n'a pas fini sa puberté. C'est impossible. Tu n'enlèves pas un organe qui n'a pas fini d'évoluer.
Oui.
Que ce soit les seins, le pénis, enfin, tu vois. Mais par contre, il y a des opérations de réassignation sexuelle qui ont lieu avant la puberté, c'est sur les personnes intersexes et contre leur gré.
Oui. Exactement, c'est ce que j'allais dire.
C'est ça,
ça les empêche pas de dormir.
Ah bah ils en parlent même pas.
Ouais.
Non.
C'est ça.
Du coup, c'est insupportable les mensonges qui sont passés, quoi. Et du coup, ça ne répond pas du tout à la deuxième question.
Et donc, le passing est l'homme de 50 ans.
Oui, mais je disais.
Paris, tu ne seras jamais dans les yeux.
J'ai eu un moment de tristesse en mode jamais, si, tant que tu n'es pas mec cis hétéro blanc. riche, tu ne fais pas partie, tu ne jamais, tu perdras toujours au jeu, quoi. Toujours et... un jour où tu perdras.
Ouais. Et, j'ai et ça en même temps, et c'est sûr, et en même temps, veut-on rentrer dans le boys club qui représente à nos yeux la toxicité de ce monde?
Bellec, hein, ça va peut-être se retourner. Hein.
Peut-être.
Moi, je suis optimiste aujourd'hui.
Hey, aujourd'hui, je sais pas ce que t'as.
Ouais, je sais pas, il y a un truc, j'ai l'impression.
Toi, tu vois, crois,
même, mais moi, je trouve un peu dernièrement, même les mecs middle.
Grimace.
Et ben ils sont un peu en mode ok bon vas-y j'essaye moi aussi de faire des choses. Alors ils font pas toujours bien.
Oui.
Mais je trouve, je sais pas, ça veut rentrer un peu dans la bande. Et nous on est là ouais mais faites correctement. Par contre, enfin je trouve qu'il y a un peu ce truc là en ce moment. Genre j'ai l'impression qu'il y a une petite déterre de certains mecs, bien sûr. Je ne voudrais pas être trop positif non plus et trop utopique. Mais je sais pas, je trouve il y a un move un peu genre en fait je trouve les woke qui sont un peu en vogue. Vous trouvez pas?
Ça dépend pour
ça
qui,
va dans les deux sens, mais je trouve
en fait ça va évidemment que on est en train d'évoluer et quand on en vrai ça se voit aussi quand on revoit les anciennes images à chaque fois les anciens trucs qu'on accepte plus du tout enfin évidemment que les choses avancent mais il y a aussi en fait on revient toujours à ça mais notre bulle le monde dans lequel on vit moi enfin ça me le fait à chaque fois mais à chaque fois que je rentre un peu chez mes parents que je vais voir mes copines qui sont pas du tout à Paris. Et eh ben elles avancent aussi, en effet, mais vraiment plus lentement, à la même vitesse, pas sur tous les sujets.
Non, mais c'est sûr, c'est lent. Par contre, c'est sûr, c'est lent. Je suis pas en train de dire, ça va bouger bien sûr demain. Mais je me dis, je sais pas, peut-être dans un siècle, bon, il y aura plus de terre. Bon.
Oui, bah c'est ça, mais ruiner mon optimisme.
Non, mais en même temps, c'est très bien. Moi, je pense aussi
la mort ou l'égalité.
Non, mais c'est sûr qu'on avance de toute façon un peu. Mais il y a beaucoup de choses ici qui reculent puisque quand on demande des droits, on se prend des backlash quoi.
Bah bien sûr.
Mais surtout ça revient, enfin moi je suis très concentrée sur les droits des personnes trans forcément parce que c'est mon sujet mais ça fait peur quoi, ça revient en arrière de ouf.
Bah parce que enfin pardon, on peut se le dire, on a un gouvernement d'extrême droite, enfin on peut arrêter de passer par quatre chemins et les gouvernements enfin l'extrême droite n'est pas connue pour les.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Avancer en droit social, je crois, il me semble. Je veux pas dire de bêtises.
Je te trouve un peu forte de café.
Punaise.
Bah oui.
Bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que tu veux piocher les petites questions?
Bonne question.
Eh bien, je t'en prie, tu peux choisir entre les questions deep ou les questions chill, selon l'humeur du moment.
Allez, chill d'abord. Il y en a plus des
chill.
Hein.
Parce que tout le monde veut aller
dans le deep.
Mais nous, on a déjà été deep là, donc on peut s'amuser, non?
On a le droit de s'amuser, en fait.
Quoi, ça, c'est s'amuse. Pas deep? Tu penses quoi du mariage?
Ça peut. Si, c'est pas forcément deep triste. Je le dis à chaque podcast. C'est infernal. Ouais, c'est devoir justifier.
Deep triste.
Là, deep, ça veut dire non, mais de toute façon, on s'en fout. Ah, mais c'est chill.
C'est chill, tu penses quoi du mariage? C'est une grande question en ce moment.
Ouais.
On y répond.
Ouais, collectivement, mais nous, on est intéressés par tes réponses. Après, nous, on n'est pas à l'abri de donner notre avis. Jamais.
Je pense quoi du mariage?
On dirait que t'es en débat interne.
Je suis en débat interne.
Partage-le avec moi, Laura. Que... C'est ça qu'on veut savoir.
Alors, il faut savoir que j'ai une petite histoire avec le mariage. J'avais un ex avec qui je m'entends très bien et on a reparlé de la situation. On était en polyamour, il avait une autre relation qu'il avait depuis 10 ans, on s'entendait tous très bien et tout. Il a fait un peu une bourde, il a omis de me dire qu'ils allaient se marier et que la soirée était sur mon lieu de travail. l'ai appris par un ami et tout. On s'entend très bien. Okay. Il avait peur de me perdre. C'était beaucoup plus compliqué que ça. On s'adore et tout.
Tu nous l'as fait courte.
Ouais, je l'ai fait courte. Mais vraiment, j'étais là. J'ai eu un mariage. J'ai dû apprendre qu'il y avait un mariage. Puis en plus, un couple bien dans la communauté queer. Donc, je suis partie en vacances et j'ai vu des stories. J'étais là. J'ai cru que j'ai raté la Pride. Donc, le mariage pour moi, c'est un peu tordu. Mais du coup, ça me donne envie de me marier aussi pour dire genre, c'est bon, je suis heureux aussi maintenant.
Un statement.
Ouais, un peu, alors que c'est bête. Mais il y a un peu le truc, genre, l'institution, j'aime pas trop tout ce que ça appelle et tout. Mais par contre, genre, faire une fête pour fêter, genre, t'as l'impression d'avoir trouvé l'amour de ta vie.
Ouais, c'est cute.
C'est cute, quoi. Mais il y a. Moi, je pense plus à me marier avec les sœurs de la perpétuelle
à l'église,
indulgence.
Bien sûr.
Non, je ne sais pas si vous connaissez les sœurs de la perpétuelle indulgence.
Pas du tout. Qui sont
C'est des. Je ne sais pas si on peut dire que c'est des dragues, mais en tout cas, genre, elles reprennent, elles peuvent marier des personnes queer, pas officiellement du coup, mais tu fais vraiment un mariage queer avec les sœurs de la perpétuelle indulgence, quoi.
Ok.
Et du coup, c'est pas reconnu officiel, je crois. Mais c'est un vrai mariage quand même. Ça, ouais. C'est stylé.
Tu te réappropries le mariage à une sauce un peu plus qui te ressemble, quoi.
Ouais, voilà, ouais. C'est ça.
J'avoue, ça.
Et elles sont habillées en bonne sœur drag, quoi. Genre en slut bonne sœur.
Oui, ouais, un petit peu court. C'est un petit peu court. On a des petits bordjartels.
C'est ça.
Hein, on a des petits décolletés sous la soutane.
Je sais pas si on dit soutane.
Il y a du monde au balcon.
Qu'est-ce que c'est un garde de dire ça?
Je sais pas si vous m'entendez, mais je pars de l'appartement.
Clac. Bah, Lou
okay, bah, j'en pense pas moins.
Il y a une BD de Liv Stromkist qui m'a un peu retourné là-dessus, sur le concept même du mariage, de la fidélité, de machin. Enfin, il y a tout ce truc-là qui est genre, wow, c'est quand même fou. Deux personnes qui se rencontrent, qui se promettent à vie de rester ensemble et d'être sacrées par les liens de mariage, blablabla. Oui, y a en soi, ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de
sens de dire on se promet pour toute la vie. Qu'est-ce que t'en sais, bordel? N'importe quoi.
Grave, bien sûr, t'en sais rien et tout ça. Après, les côtés.
Bah, oui, excuse-nous,
mais parce que déjà.
J'ai quoi encore?
Laro, Fabien,
non, mais on est mindfuckés. On est mindfuckés. Vous croyez à l'amour pour toujours?
Je pense que j'ai jamais cru à ça de toute ma vie.
Ah ouais.
Attention, j'ai d'autres dingueries, moi, que j'ai envie dans le mariage. Je vous dis pas, je déteste et tout. Moi, je veux la robe blanche, le truc hyper classique, la belle robe de ma life.
Pour être officiellement a trophy wife.
Bah ouais. Non, mais ça, c'est pour ça.
Mais toi, en plus, t'as envie de faire marier au premier regard.
Mais voilà, moi, je serais cap. Mais par contre, je ne crois pas. Mais parce que je ne crois pas à l'amour pour toujours. Donc pourquoi pas, si quelqu'un sur le papelard a les mêmes valeurs que moi, on apprend à se connaître, à tout moment, ça match, mais ça match pour un temps et basta, genre.
Mais au pire, tu divorces et voilà.
Mais bien évidemment. Moi, la seule phrase qu'il faut pas dire dans un mariage, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pas du tout. Ça va pas ou quoi? Quel gros mensonge. Enfin, non, j'aime pas mentir.
Non, donc, bah voilà. Moi, je suis plutôt très romantique, donc voilà. Mais la vie m'a prouvé là que l'amour.
La vie ne m'apprend rien, comme dirait.
La vie.
Oh non.
Ne m'apprend rien.
Il y a une faute.
Que ouais, l'amour forever
ne
de
dure
plus
pas.
De deux ans ne dure pas, visiblement. Il dure même pas trois ans, comme disait l'autre, mais c'est qui déjà l'autre? Notre bon vieux
Beck BD.
Ouais, Beck B.
Qu'on adore d'ailleurs.
Qu'on adore.
En passant, on l'embrasse, bien évidemment.
On boira pas un petit verre de Célarmiche. Allez,
hop, j'ai soif.
Pardon, c'est mon rire. C'est mon rire contre le patriarcat.
Niarc.
C'est mon rire de méchant.
Mais ouais, non, je suis partagée entre mille trucs, évidemment. La fête, le fait de célébrer l'amour entre amis, entre familles et tout, je trouve ça Enfin, ça a l'air trop cool.
Repas.
Moi, je suis plutôt assez chaude de me marier.
Moi, je pense qu'à la bouffe.
Ah ouais,
bon, moi, je pense à mon arrivée dans
la belle robe.
Avec plusieurs tenues différentes et genre des reveals.
Avec une robe qui
ouais, qui fait reveal.
Oh là là,
qui se transforme.
Ouais,
oui,
bien sûr.
Ouais, genre Hunger Games.
Bien sûr.
Ouais. Moi, c'est juste pour ça. Et je veux vraiment que la personne que j'épouse ne veuille pas être autant sans l'attention que
oui.
Moi.
Ah bah oui, bien évidemment.
Sinon, ça va m'énerver.
Également.
C'est pour ça que je sortirai jamais avec un acteur. Si jamais t'es un acteur et que tu me kiffes, on sortira pas ensemble.
Là, je sors avec un vidéaste, c'est parfait. C'est quelqu'un
qui est derrière la caméra.
Voilà, qui aime me regarder.
Ouais. Et se valoriser. Et donc, très partagé entre trop romantique et le big love. Et c'est super d'y croire.
Ouais.
Et en même temps, bon, institution, et on se promet. Et aussi, en même temps, par contre, féministement parlant, c'est quand
même...
C'est
de la merde.
Bah non, c'est plutôt bien.
Le mariage ?
Une meuf qui gagne moins de thunes que son mari, qui a moins d'avantages.
De se marier ?
Bah oui. Ah bah oui.
Ouais, mais t'es sous son joug, quoi.
Faut ah oui, alors que j'allais dire, dans ce que ça représente,
bah,
à la base,
joug,
le mariage,
si
et notamment
c'est un gros
le voile
bâtard.
Et tout, c'est vraiment une sale truc d'appartenance. C'est ton père qui t'amène à l'hôtel.
Oui.
Sous-entendu, ton père t'offre à ton mari.
Oui. Ouais. Ah bah,
le voile. Oui. Enfin, en fait, ça, je veux dire, ancestralement, c'est que de la merde. Le mariage, c'était parce que les femmes étaient des mineures jusqu'à ce qu'elles épousent quelqu'un. Enfin, c'est
bien sûr,
tout est dégoûtant.
Écrivain, livre.
Et sur, exactement comme ça. Tout était dégoûtant. Enfin,
c'est de la merde. Voilà.
Une critique vraiment.
Non, mais. Mais par contre,
élaboré.
Oui, peut-être que en termes de droit, Est-ce que c'est intéressant féministement ?
Comme le mariage homosexuel, tu vois, je suis là genre bon, on a le droit, du coup, vas-y.
Vas-y. Non, mais est-ce que ça t'offre ?
Si, parce que si tu te sépares, ça permet la.
Bah, si t'as fait un mariage, la communauté des biens, quoi.
La pension alimentaire, ça permet une séparation de biens qui se fait correctement, sachant que la femme. Moi, je respecte la femme. Non, mais sachant que les femmes sont moins payées que les hommes, sachant que les femmes sont plus à s'occuper des enfants que les hommes, donc si on parle d'un mariage vraiment avec des enfants, notamment, c'est intéressant pour les femmes.
Mais je trouve que ça remet une relation de pouvoir dans le mariage, quoi.
Je suis d'accord, mais de fait,
tu veux dire que toi, tu voudrais pouvoir plumer ton mari au divorce
en fait, c'est exactement ce que je veux dire.
Mais non, mais tu vois ce que je veux dire.
Je pense que ça apporte certaines choses.
Ça établit quand même une certaine égalité à un moment donné, quoi.
J'en profite pour glisser une petite reco, justement, parce que je crois qu'elle en parle très bien dans son podcast, Titiou Lecoq. J'arrive jamais à savoir si on dit Titiou ou Titiou, mais je pense qu'on dit Titiou Lecoq. Qui est une autrice.
Titiou.
Bah non, parce que c'est vraiment T au début, pour le coup, T-I.
Bah donc T, si c'est re-T.
Bah Titiou alors. Titiou Lecoq. Bah voilà. Elle a fait un podcast qui s'appelle Le couple et l'argent. Et je crois que c'est peut-être un livre aussi, mais son podcast Le couple et l'argent est vraiment super et ça parle notamment du mariage et de ce que ça change dans un couple. Enfin, comment tu. Même par rapport aux impôts, il y a des trucs hyper intéressants. Qui moi ne m'ont pas parlé parce que je suis pas du tout mariée, mais qui si vous êtes un couple
et t'es pas du tout impôt, c'est pas ton truc non.
Alors que toi, t'adores les impôts.
Ouais, j'adore ça.
C'est ton dada les impôts.
Je comprends toujours pas.
T'es comptable. Non mais en gros, voilà, je vous le conseille fortement au cas où là, dans ce qu'on vient de dire, il y a peut-être des trucs qui sont un peu flous. C'est très très bien.
Non, je pense que c'était très clair tout ce qu'on a dit.
Je vous conseille fort.
Oui. Non, en vrai, ça m'intéresse.
Je vous conseille fort ce podcast, Le couple et l'argent de Titiou Lecoq.
Mais sur le.
Tu vois, il y avait des choses à dire sur le mariage un peu.
Ouais, mais ça m'intéresse, j'ai envie de continuer des heures, quoi. C'est ce truc surtout de est-ce qu'on croit à l'amour. Moi, je sais toujours. Pas. Moi, j'y croyais hyper.
Mais pourquoi ? Enfin, excusez-moi,
parce que j'étais
mais
élevée comme une meuf hétéro et que je passais ma vie à rêver qu'un
mec.
Mais
parce que vous avez pensé avoir des comédies romantiques et tout.
T'as dit quoi ? Oh, waouh !
T'as dit quoi ? Non, c'est horrible. Vous projetiez dans être aimé. Moi, je crois que je ne projetais pas dans être aimé, donc certainement
pas être moi-même.
Être aimé toute ma vie.
Ah ouais.
Tu vois, je pense qu'il y a un vrai truc de. Officiellement, très vite, je me suis dit, mais personne ne va m'aimer toute ma vie. Donc, c'est pas du tout possible.
Moi, je me suis dit, si je deviens exactement comme la personne veut que je sois.
Oh ! Oui, c'est pas très. Donc, c'est pas tellement mieux. Ouais. C'est pas mieux.
Mais je sais maquiller maintenant. Je sais m'adapter aux gens.
Après, je trouve ça mimes de finir ses vieux jours avec quelqu'un, quoi.
Oui, mais non, mais c'est pas forcément obligé.
C'est pas forcément quelqu'un que t'as depuis que t'as 18 ans.
C'est plutôt
ans,
une construction d'équipe, moi, c'est comme ça que je le vois.
Bah oui.
C'est genre, il y a quelqu'un où t'es amoureux, machin, t'as un peu. Mais c'est pas forcément l'amour qui dure hyper longtemps, c'est la sensation d'avoir créé une équipe, d'avoir vécu des moments, et ça, j'y crois vachement. Oui. Je crois vachement à une personne qui te suit dans ta vie. Enfin, et c'est d'ailleurs mon ex qui est avec sa meuf depuis 10 ans. J'aime trop leur relation et je les aimais déjà avant parce que. Ça fait 10 ans qu'ils se sont battus. Enfin, je comprends trop qu'ils se soient mariés, tu vois. Mmh. Parce que pour le coup, ils fêtent non seulement leur amour, mais aussi 10 ans de.
Leur équipe.
De leur équipe, quoi. Mmh. De s'être soutenus, de s'être connus dans les moindres détails.
Mais ça veut pas dire pour autant que ça dure toute la vie, du coup.
Non, mais c'est pas forcément. Mais je trouve que. Enfin, l'amour peut-être se construit comme ça. Là, j'essaye vachement d'apprendre que c'est pas tant le désir, l'amour, c'est pas tant des émotions, genre il me manque, j'en peux plus, machin.
On s'accompagne, quoi.
On s'accompagne avec
une personne. Alors dans ce cas, j'ai l'impression que ça marche si tu as déconstruit ton rapport à l'amour hétéro,
passionnel,
avec
machin.
Lequel on a grandi, et que par exemple tu es dans un polyamour ou dans une relation libre qui te permet d'aller chercher ailleurs ce que peut-être tu n'as pas chez toi. Ou alors si ça t'a satisfait complètement, tant mieux, mais j'ai l'impression qu'on se fait un film de l'amour hétéro, enfin pas hétéro mais je voulais dire exclusif, l'amour
parfait,
exclusif en duo, et qu'on pense que ça va cocher toutes les cases longtemps, or c'est quand même difficilement
c'est
le cas,
rare.
On finit par faire que des compromis, des trucs, des machins, alors que c'est en ça où, et on en revient d'ailleurs au livre Les sentiments du prince Charles que tu disais tout à l'heure de Liv Stromquist,
qui parle vraiment
en
de tout
vrai,
ça,
le polyamour semble sur le papier, mais alors que c'est infiniment compliqué, etc., mais sur le papier, il te dit l'idée du polyamour, c'est de te dire, au lieu de chercher tout,
comme les amis
chez une personne, exactement, tu cherches des choses
exactement
différentes.
C'est exactement ce qui est dit dans la BD de Lévi-Strauss.
Polyamour, ça marche, j'arrive pas.
Mais parce qu'il y a plein de complications.
La relation libre, je comprends, mais j'ai besoin que chaque d'avoir une personne.
D'avoir ta personne.
Ouais, et j'ai essayé sans hiérarchie, franchement, ça marche pas, parce que de base, il y a une hiérarchie de disponibilité de temps.
C'est vrai.
Et du coup, genre, ça marche pas pour
bien
moi.
Bien sûr,
quoi.
Je parlais pas dans la pratique, je parlais de la théorie, c'est comme le communisme. Sur le... La théorie, elle était bien, le communisme.
Ouais.
C'était on est tous égaux et
égales. T'es en train de dire que le polyamour, c'est comme le communisme.
Je suis en train de dire que la théorie est beaucoup plus belle et bien facile sûr. Que la pratique.
Non, mais j'aime
l'idée, l'idée de base, je la trouve évidente. Enfin, je me dis,
oui,
bah,
ça,
bien sûr.
Sûr,
comme tu dis, c'est comme en amitié. On n'a pas cherché l'ami qui coche toutes les cases. On a une amie avec qui on rigole plus,
à qui on dit tu seras seulement mon ami à moi.
Non, mais il y a les amis qui ont différents traits de personnalité qui nous satisfont.
Oui, et différentes disponibilités.
Là, on est en polyamour.
Tout à fait.
Ouais, on est en polyamie.
Polyamie. Oh.
Est-ce que tu veux piocher une autre question?
Bah, une deep, hein.
À 50 minutes, donc.
Ah putain, faut se dépêcher.
Non, tranquille. J'ai envie de pisser, donc tout va bien. Ça, moi tu aussi. Peux le garder au montage, je rigole.
Ma phobie. Faut donc un truc vraiment phobique, genre
non,
instinctif.
Il faut rien, il n'y a pas de règle. D'accord. Attention. Arrête de te mettre un cadre.
Arrête de te mettre un cadre.
Non, mais là.
Je suis très binaire, ça pour peut être binaire quand même.
Franchement. Ça peut être très large. La phobie. Moi, j'ai peur des vers, par exemple. C'est ma phobie.
Des vers,
de tout type de vers. Les vers à boire, la couleur, je rigole.
Mais je rigole comme ça. Pleine gomme.
Non, les vers, tous les vers de terre, les vers, les asticots, je peux foutre en l'air. Et je ne connais pas une personne, sans vouloir, je connais personne qui a une phobie aussi forte que moi. Je n'en peux plus quand je regarde, ou quand j'ai regardé Fort Boyard, ou Koh-Lanta, ou dinguerie pareil, où ils sont là, c'est ma phobie, et miam miam miam, voilà qui mange le verre de cocotier. Mais vous n'êtes pas dingue. L'autre fois, là, dans Les Apprentis Aventuriers, oui, j'ai regardé ça. Ils disaient, ah, c'est ma phobie, les tarentules, et miam miam miam, et vas-y qu'elle la mange. Mais t'es pas bien, non? Moi, c'est bien simple, il y a un verre sur la table.
Non, mais ça ne s'arrête pas.
Je
qu'elle écrit la pièce. Vraiment.
De ouf.
Jure, c'est phobie.
Il y aura une page sur le féminisme, une page sur. Vous n'êtes pas vraiment phobique.
Non, c'est pas ça, c'est que je me dis, mais c'est dingue, les gens qui disent c'est ma phobie, mais ils peuvent. Moi, vraiment, je quitte la pièce.
Ouais,
bah oui, mais il y en a qui surmontent leur phobie.
Non, il y a vraiment.
Quoi, je suis faible,
non,
c'est ça que tu veux dire.
Non. Moi, j'avais une coloc qui était phobique aussi, elle ne pouvait pas vider même un truc qui avait un tout petit peu pourri au cas où.
Ah bah oui, bah bien sûr que non.
C'était moi
mais
qui vidais et tout. Non, c'était un verre de terre.
Quoi, quand il y avait un verre dans ton riz, j'ai failli pleurer.
Heureusement que t'as pas ouvert ma poubelle quand j'ai jeté le soja pourri.
Déjà, plus jamais j'achète du soja, vu que tu m'as dit ça.
Ouais. Ah bah ça pourrit en deux secondes, l'épouse de soja.
Deux secondes,
j'ai pas compris.
Crever.
J'ai mis dans la poubelle, le lendemain j'ai ouvert, j'ai fait, c'est une plaisanterie.
Ouais, il y a des trucs comme ça. Je crois que le pire, c'est l'ananas.
Ah ouais, ouais. Bah voilà, déjà pourquoi je mange pas de fruits. Voilà, vous avez tous et toute la réponse. Je
ne
mange pas de cerise, mais jamais de la vie je mange une cerise. Jamais un abricot, une cerise, rien que dalle. Voilà, non mais ma phobie est très 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 élevée.
Ouais, je comprends.
C'est un taux de phobie très élevé.
Moi j'ai peur de plein de trucs, alors c'est difficile de choisir.
Et après j'aime aussi pas du tout la foule par exemple, qui est dans un autre délire, où vraiment je suis pas du tout bien.
Ouais, ça je comprends.
Donc ça peut être des phobies très larges, tu vois. Pourtant, tu vas en manif de gros gauchos, là. Oui. Et il y a la foule.
Oui, c'est vrai qu'en manif, mais il y a des moments où on tolère évidemment plus que d'autres.
Voilà.
Donc c'est pour ça.
La foule. Mais c'est pour ça que je ne suis pas
agoraphobe. Un verre de cocotier. À Koh-Lanta. J'ai dit, tu pourrais tolérer le verre de cocotier.
C'est sûr que je peux pas.
Mais lui, il est particulièrement dégueulasse.
Non, mais c'est sûr que je ne peux. Mais même tu mets un petit asticot, je ne peux pas. C'est pas possible.
Et ta plus grande phobie, pardon, je peux, du coup, ce serait d'avoir un.
Ah, un vers solitaire.
Ouais.
Les vers au cul, vers solitaire et tout. Tout ce qui est des vers sur mon corps.
Ah oui, le vers qui se met sous la peau, là, de si jamais tu vas en Thaïlande et peut-être tu marches dans un mauvais truc.
On l'a mis trop mal.
Vous savez que quand je lis un livre pour enfants et dedans il y a un dessin de vers de terre, je cache la page.
C'est vraiment phobique.
Non, mais c'est trop.
Alors que c'est vraiment rien du tout.
Mais c'est dégoûtant.
Non, c'est assez. C'est un truc, c'est le genre de phobie qui vient d'un truc instinctif assez classique. Comme les gens qui ont peur de mettre leurs doigts dans des trous.
Oui, les trous d'ailleurs. Les petits trous.
Moi, ça me fait pas du tout peur. Mais les petits trous, ça, c'est une peur apparemment qui viendrait de. J'arrête pas de dire des apparemment dans ce podcast.
Ce qui paraît.
Google tout ce que je dis. Mais en fait, c'était donc des espèces d'animaux qui cachaient leur poison dans des petits trous sur leur peau, sur leur corps. Et du coup, c'est une peur pour le coup vraiment.
Viscérale.
Viscérale, ancestrale. Qui vient vraiment d'un vrai truc comme la peur des serpents. Et la peur des asticots est assez.
Oui, puis en plus, t'as peut-être. Peur de la mort, du coup, vu qu'à la fin tu te fais manger peur des asticots. Ouais.
Plutôt comme tout le monde, j'ai pas hyper envie de mourir, toi. Enfin, mais j'ai pas peur, je suis pas terrifiée.
Non, mais par rapport aux asticots, je veux dire.
Bah, j'en sais rien. Franchement,
tu te grailles à la fin.
Ça me plaît pas d'en parler. C'est-à-dire que.
Ouais, on arrête.
Mais non, tu sais, mon père m'a dit.
C'est toi qui as mis les questions là. C'est moi qui
te clair. Faudrait que tu creuses d'où ça vient. Non, je veux pas.
Non, il y a des phobies, c'est pas ton père t'a pas assez aimé, t'as peur des asticots.
T'entends papa, ok.
Patrick.
Elle le chauffe.
C'est
elle le chauffe. Non, mon père.
Non, c'est
Patrick.
Son père.
C'est Patrick Sébastien.
Patrick Sébastien.
Ah, oui, c'est Patrick Sébastien, mon père. Il y a qu'un Patrick.
Fais tourner le serviette. Alors, toi, c'est quoi ta phobie? Bah, Patrick Sébastien.
Ta phobie, alors, Lou.
Ou tes phobies?
Tes phobies. Moi, j'ai peur du vide, des sensations fortes.
Tu fais pas les attractions?
Je déteste faire les attractions.
Ah ouais?
Ouais, j'aimerais bien être ce genre de personne, mais vraiment, je peux pas. J'ai trop peur. J'ai trop peur de la tête à l'envers. J'ai toujours eu peur de la tête à l'envers quand il fallait des galipettes là en acrosport.
Et c'est quoi qui fait peur? C'est que au la cas où il y a un accident
du monde qui se renverse. En fait, j'ai tous les trucs où je contrôle pas, je supporte pas. Aller dans la mer, pas voir où je nage, je supporte pas. Les sensations fortes, je supporte pas. Tout ça, tout ça. Mais le truc que je déteste le plus au monde, qui est très particulier, je sais pas si c'est phobique, mais c'est c'est les gens qui mettent du papier dans la bouche ou des serviettes dans la bouche.
Ah oui, je vois. Le coton ou le coton.
Le coton. Ah, tu vois.
Dans la bouche, tu veux dire sur les dents, c'est ça?
Ouais, ou qui s'essuie.
Coton frotté sur les dents.
La sensation me fait des frissons. Longtemps leur mouchoir ou des tissus. Moi, j'ai des trucs avec les vêtements, certains vêtements, je peux pas les tenir longtemps.
Là, c'est juste quelqu'un qui s'essuie la bouche avec une serviette.
Ah ouais, je peux pas.
Ah merde.
Tu sais, t'as vu The Holiday?
Ouais.
Avec Jude Law.
Bien sûr.
Il fait Monsieur Serviette à un moment.
Il quoi?
Ah oui,
il fait
Monsieur
Serviette.
Ah, tu détestes
mon
ce moment.
Mon pire cauchemar. Ça a été une hantise. Jude Law qui fait Monsieur Serviette.
Il en rend.
Ah ouais, t'as la phobie des serviettes.
Ouais.
Il m'a rendu comme ça.
T'as la phobie des serviettes.
Est-ce que tu connais le
tissu, quoi?
Le manga Dreamland?
Non.
Où justement, c'est un monde où, quand c'est français, et c'est un manga où, dans le rêve, t'as des super pouvoirs avec tes pires phobies. Et du coup, genre, je me suis beaucoup demandé qu'est-ce que ce serait mes pouvoirs de super monsieur serviette.
Full tissu.
Je peux mettre des trucs dans la bouche. Enfin, je sais pas.
Ah, moi, ça me fait rien, ce truc-là. Autant les ongles
ça me fait
sur
rien.
Le.
Sur le tableau.
Ouais.
Sur la craie.
Sur le tableau.
Et toi, c'est quoi ta phobie? La mort, toi?
La mort, bien sûr.
Tout bonnement la mort.
Tout bonnement la mort. Ouais. Grosse phobie.
On peut même pas en parler. Moi, j'adore parler.
Non,
mais je vais pas le faire. C'est pas ça que je veux dire.
De ta mort ou la mort des autres?
Du concept, un peu. Mais d'ailleurs, là, ça t'angoisse.
Ouais, attends, je suis en train de
pas y aller. On n'est pas obligé d'y aller, mais en gros, justement.
La mort, non, mais de mourir, enfin, je suis pas chaud.
Oui, mais même.
Et puis la mort, en général, on est quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Alors que moi, ça me fascine de parler de potentialité. Parce que j'en sais rien.
Imagine, c'est une crise d'angoisse infinie.
La mort.
Jusqu'au bout de la vie. Non, mais quand tu fais un cauchemar un peu éveillé, là, comment ça s'appelle? Une phobie du sommeil, là.
C'est horrible, ça.
Imagine, c'est ça, la mort. T'es en paralysie du sommeil, tout, jusqu'à la fin des temps. Tout le monde est comme ça.
C'est horrible.
Ah, évidemment que c'est horrible, et comme on sait pas, c'est peut-être ça. C'est horrible.
En fait, moi, ce qui me fait peur dans la mort, c'est savoir que t'es en train de mourir.
Oh là 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 là.
Oui, et puis il y a l'après, allô? Bah, après, ça peut pas être si chiant.
Tu vois, mais t'es.
Moi, j'ai peur de m'ennuyer de
fou, genre.
Imagine, c'est un ennui.
Dans une boîte, ou ça.
Ouais. Mais c'est long, sa merde.
Bah, et ça te fait. Je comprends pas.
Ça fait rire parce que tu penses bien que c'est pas possible. Je vais pas être dans une boîte en train de.
Bah, tu vas être quoi? Un fantôme, mais tu vois tout le monde continuer la vie sans toi.
Comment ça se fait qu'on le sait pas? Moi, je trouve ça dingue. On soit le plus grand mystère.
Bon, allez.
En vrai, je suis presque un peu excitée.
Lui, il est perdu. Il a regardé dans le vide.
Vous trouvez pas ça un peu excitant quand même? Il y a une partie de moi.
Mais
parfois, je me dis,
écoute-moi,
j'ai un peu hâte de savoir.
Bon, allez, ça va, c'est bon. Arrête de faire ton intéressante. Ah, ça a l'air trop bien de mourir, MDR.
Mais il y a des gens, ils croient au paradis, à l'enfer. Ça veut dire, ils croient qu'une fois qu'on meurt, on arrive dans un endroit sur des nuages, il fait soleil et tout. Mais n'importe quoi.
Bah, c'est très fou. Moi, je trouve ça fascinant. J'espère qu'on a une deuxième vie en mode fiesta.
Moi, j'espère juste
d'aller en enfer, imagine.
Dans les flammes et tout. Mais quoi? On n'est pas dans les flammes, genre.
Moi, je pense, on meurt et après, hop, on revit notre âme, hop, quelque part,
on recommence et on a juste
déjà vécu. Et je vous donne ma dernière phobie, c'est les drogues qui font des hallucinations. Mais bon, j'en ai jamais pris.
Ouais, je comprends.
Trop ma phobie
lié avec
tout ce qui peut être un peu surnaturel.
Moi, je voudrais bien essayer. Je viens de me dire parce que je suis sûre. Que ça marchera pas. Non, mais comme mon cerveau, c'est un.
Je te vois trop défoncer.
Non, mais j'aimerais bien. Genre. Parce que vraiment, jusqu'ici.
Écoutez, ça me fait rien. Ça me fait rien. Je vois que des asticots, je comprends.
Non, mais je serais curieuse. En fait, je serais curieuse de savoir si mon cerveau est capable de lâcher prise.
Si.
Oh, bah, franchement.
Non, mais.
J'aimerais bien, je crois. Bah, après j'aimerais pas être malade et tout après parce que ça doit quand même faire un truc au corps pas dingue.
Ouais.
Tu sais, la redescente et tout, mais de base, j'aimerais bien savoir si mon cerveau il est capable de se laisser aller, genre allez, laisse, c'est bon, lâche l'affaire.
Hallucine un peu. Oui, mais peut-être tu fais un bad trip. Hein.
Ah oui, c'est pour ça. Non, mais j'ai pas envie. Enfin,
ça me dit trop rien, mais trop peur que je prends et je suis là. Oui, bon, ok, super. Hein,
ça move des endroits dans mon cerveau.
Eh ben, j'ai la bonne nouvelle de vous dire que nous arrivons au top flop culture. Le top flop culture, tu veux faire un jingle?
Top flop moment culture.
Ouais. Donc c'est le moment de nous recommander ou de ne surtout pas nous recommander quelque chose que t'as aimé ou pas aimé. On peut commencer si tu veux un petit temps de réflexion.
Bah j'enchaîne comme c'était le sujet juste avant, mais donc le film Palm Springs qui est dispo ou Palm Spring simplement, je sais pas s'il y a un S à la fin.
Bon, bref. Vous nous pardonnerez.
Ah bah, oh écoutez, il est sur Prime, je l'ai vu il y a 2 jours, il est sorti il y a 4 ans, un truc comme ça, et il est trop cool. C'est une comédie romantique, je m'attendais à pas grand chose et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Mais il y a un aspect qui est cool, qui amène toute la saveur de ce film, c'est qu'il y a une faille spatio-temporelle et ça a tendance à m'agacer parce que je n'y comprends à rien, je ne comprends pas comment c'est possible.
Bah ça ne l'est pas.
Non mais bref, ça s'explique avec de la physique quantique mon cul là, mais moi j'y comprends rien du tout, du coup ça me fascine un peu dans le sens... Mais je sais, mais dans Harry Potter il y a une faille spatio-temporelle que tout le monde, les gens là, ils arrivent à expliquer, mais si c'est parce que dans la physique quantique, et moi je suis là, bah oui mais c'est pas possible que là il soit là à ce moment là, bon bref.
Ils peuvent expliquer ça mais pas le fait qu'il y ait des baguettes, des voitures volantes quoi, d'accord,
ouais. D'accord. Mais ouais non, ce film est très cool, il m'a mis tout à fait dans un good mood, c'est de l'amour, donc moi dès que c'est des films qui parlent d'amour, j'adore. C'est deux personnes qui se rencontrent à un mariage, un mec et une meuf, et le mec en fait il est bloqué dans une boucle spatio-temporelle, donc il vit tous les jours cette même journée, et en fait il amène cette meuf là qu'il rencontre dans la même boucle un peu sans faire exprès, et du coup ils se retrouvent tous les deux à être les deux seules personnes au monde à vivre dans cette boucle spatio-temporelle, donc ils vivent cette même journée de mariage tous les jours de leur vie en ayant conscience de la vivre. Genre, dès qu'ils meurent, en fait, ils sont immortels. Et donc, dès qu'ils meurent ou dès qu'ils s'endorment, ils se réveillent le matin du mariage. Très sympa.
Tout à fait sympa.
Mais j'ai quand même fait une crise d'angoisse le lendemain. Parce que j'ai eu peur de.
Au cas où tu revoyais dans le même jour.
Oui.
Et non, tu re-regardes
Palm Springs. J'avais très, très peur de m'endormir et de me réveiller le même jour.
Alors, ça, par exemple, moi, ça m'exciterait.
Oh, moi, ça me ferait kiffer.
Moi qui adore tout savoir, le contrôle et tout, bah parfait. Si je pouvais revivre des trucs que je sais déjà, bah
mais c'est tout, c'est que ça. Jusqu'à la fin de ta life sans.
Je vois bien. Qu'il y a un problème. Mais... que ça aurait ses limites.
Alors tu peux pas dire je kifferais.
Je pourrais pas dire que je détesterais le lendemain. Tu vois. Mais bon. Non, mais c'est pas bien.
Mais c'est immonde. Enfin, plutôt mourir. Et sauf qu'ils sont immortels. Donc,
c'est
un absolu cauchemar. Et toi, Lou,
est-ce que tu as quelque chose? Ouais, c'est un truc qu'on m'a conseillé. J'étais là. Et en fait, ça s'appelle Au fil des jours. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est une sitcom sur Netflix. Donc sitcom assez classique, mais en fait ils utilisent les codes de la sitcom pour parler de vrais trucs, c'est hyper bien fait, et ça part d'une famille hispano-américaine, donc une famille racisée, il y a aussi des questions LGBT et tout, enfin une meuf qui gère tout seul ses enfants avec sa mère, et c'est hyper drôle, c'est une famille cubaine, et c'est hyper drôle, enfin ils parlent de racisme, ils parlent de LGBT-phobie, ils parlent de santé mentale, de ouf, parce que c'est le premier épisode, la mère prend des antidépresseurs et a du mal, parce qu'elle a fait l'armée, elle se dit genre non, moi je suis forte, machin, donc c'est hyper bien traité, c'est hyper touchant, c'est hyper drôle, et c'est une sitcom de 20 minutes,
j'en veux, c'est sûr que je vais regarder.
Franchement, c'est génial. Moi, j'adore le genre de truc qui utilise les codes classiques et pour après, genre, parler de vrais trucs. Ça m'a fait pareil avec Crazy Ex-Girlfriend, tu vois, où t'as l'impression que c'est une série. Crazy Ex-Girlfriend, c'est une série aussi sur Netflix, comédie musicale à moitié. Et t'as l'impression que c'est une vieille série hétéro.
C'est une meuf qui veut reséduire son ex.
Et pas du tout, en fait, c'est génial. Ça parle de santé mentale, de plein de choses aussi. Mais ouais, Au fil des jours. C'est vraiment bien.
Trop bien. Moi, je vous recommande un livre qui s'appelle Décolonisons-nous, que je suis en train de lire en ce moment.
J'ai trop envie de
En fait, qui est un livre de Franck Lao qui a créé le compte Instagram Décolonisons-nous et qui est évidemment un compte qui permet de s'éduquer aux questions de race, parce que oui, on a le droit de dire le mot race, parce que en gros, il y a des races dans le monde, puisqu'il y a des gens qui sont traités moins bien que d'autres, de par leur couleur de peau, leur origine, donc voilà. C'est pas parce qu'on dit pas le mot que ça n'existe pas, le racisme. Et en gros, il fait ce travail sur son compte Insta depuis des années, et au début, il le faisait de manière anonyme, c'est-à-dire qu'on savait pas, lui, qu'est-ce qu'il était, et il disait qu'il recevait des messages en mode, il voyait bien que les gens s'adressaient à lui comme si c'était genre une femme afro, d'origine afro.
C'est un mec
Je découvre.
Et en fait, Franck Lao, c'est un homme, sino-laotien. Et du coup, il l'a révélé dans le podcast Kif Taras, je crois. Il est allé, il est allé dans un épisode de Kif Taras. Et c'est là où il a révélé son identité, en gros. Et donc, dans le livre, bah, c'est un peu le même travail que dans son compte Insta, mais c'est plus raccroché aussi à son histoire, en fait, ce qui est hyper intéressant, je ne savais pas, enfin, il revient sur le scandale du sang contaminé. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce truc qu'on a vaguement dans un coin de nos têtes. Dans les années 80, en gros, il y a eu toute une, des transfusions sanguines qui ont été faites. Et en fait, ça a transmis le virus du sida et de l'hépatite. Une des hépatites, C ou B, je ne me rappelle plus. Voilà. Et donc, et lui, en l'occurrence, Franck Lao, son père, a été transfusé. Mmh. Et il a contracté le sida suite à cette transfusion. Et voilà, donc il parle déjà, il relate un peu cette histoire et pourquoi c'est lié aussi. En fait, il relie beaucoup de choses à notre passé, en gros, de colons. Enfin, ouais. Que la France a une histoire. Mais en gros, l'idée, c'est pas de dire les gens étaient racistes avant, il faut les cancel aujourd'hui. C'est de dire, venez, on prend 5 minutes pour regarder en face l'histoire de notre pays qui est quand même très très liée à la colonisation, à l'esclavage, à un rapport de race avec des hiérarchies, vraiment, genre. Et de se dire, voilà les problèmes, voilà ce qui a ruisselé jusqu'à notre quotidien aujourd'hui. Et voilà, il fait allusion à plein de choses diverses et variées de notre rapport à ça.
C'est un essai, du coup.
C'est plutôt un essai, ouais. Et parfois, il est, lui, très proche de son histoire personnelle. Donc, en tant que mec perçu comme asiatique aux yeux du monde, et il fait en même temps plein de parallèles. Enfin, il a des bouts d'interviews où il a demandé des témoignages à des gens, et notamment t'as les témoignages de c'est quoi la première fois que t'as été confronté au racisme, et du coup c'est très t'as plein de profils différents qui répondent, et c'est très touchant. Et moi je suis très pour que ce livre là on le lise quand on est blanc ou blanche.
Bah oui.
Parce qu'à un moment, les personnes racisées, elles savent ce qu'elles vivent. Enfin bon, c'est très bien aussi de le voir théorisé, ça fait du bien. Nous-mêmes, on sait, on aime bien lire des trucs féministes, alors qu'on, tu vois,
oui,
ça nous fait du bien.
Mais je pense la destination.
Mais je pense qu'à un moment, il faut vraiment que les personnes blanches se confrontent à leur biais et s'éduquent un peu là-dessus davantage. Et c'est parfait pour s'éduquer sur ces sujets-là.
Bah, du coup, ça m'a fait penser. Il y a en précommande le livre de Semblant de Rien.
Oui,
des
tout à fait.
De prix qui s'appelle Mécanique du privilège blanc. Comment identifier et le déjouer, donc du coup je l'ai pas lu.
Mais ce compte Insta aussi, du coup Semblant de Rien et Décolonisons-nous, c'est vraiment deux comptes Instagram si vous êtes plus
qui
sont importants à suivre. Et Semblant de Rien, il y a un podcast aussi qui était vraiment super.
Ah, je savais pas
ouais,
ça.
Il me semble, je peux à vérifier, mais il me semble qu'il y avait un podcast qui était vraiment super.
Voilà. Eh bien c'est super, nous arrivons à la fin de ce podcast. Nous y arrivons enfin. Voici, tu vas enfin pouvoir partir de l'appartement pour
partir.
De vrai.
Ah,
c'est ta faute. Et oui, finalement quand on est là, on s'y sent bien. Non, c'était trop cool de t'avoir. Merci beaucoup.
Merci.
Si vous voulez le retrouver, bah, on vous l'a dit tout à l'heure, sur scène, dans son spectacle, Le Mérou. Non, Mérou.
Mérou.
Mérou, ou en plateau d'ailleurs.
Attends, Trottignon, c'est ton vrai nom de famille?
C'est mon vrai nom de famille, ça
mais
veut dire.
C'est trop mignon.
Petit Valet d'Écurie. C'était le nom des palefreniers du roi.
Oh, c'est adorable.
C'est adorable.
Enfin, c'est trop
des sous-fifres, mais ça.
Trottignon.
J'étais sous-fifre kind of. C'est un peu ma classe sociale.
Et sinon, suivez sur Insta, Lou Trottignon.
Trottignon.
Ouais. Et nous aussi, suivez-nous, voilà, si ça vous amuse. Bah oui.
Et venez
si ça vous
amuse
aussi me voir moi en spectacle, si toutefois vous en avez le désir.
Bah venez à la suite prochainement pour voir.
Vous aurez un passing.
Puis Camille, et vous aurez un passing qui sera super. Tous les mots, on dirait qu'on fait un petit, tu sais,
un petit best-of. Comme toutes les bandes spectacles de stand-up. Ouais, et vous avez vu le lien avec le début.
Mais non, choc mental.
Et je le fais aussi, hein. Clairement.
Bah, en même temps, c'est efficace. Moi, j'aime bien.
Moi, j'aime bien.
Je suis cliente.
Ça me satisfait.
Je suis cliente.
Bon, on dit pas du tout au revoir là.
Ouais, merci
à tous les parents qui sont là. Il était sympa.
On continue. Ouais, sur le bas de la porte. Ok. Allez,
le bas de la porte.
Bon, allez, ça va.
Allez,
on arrête. Allez,
merci.
Bye.
On espère que cet épisode vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes audio, à le faire tourner, nous laisser des étoiles, des cœurs, des mots doux, des commentaires quand c'est possible. Ça nous aide à référencer le podcast. Et vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube, sur Instagram et même sur Facebook pour les plus vieux d'entre vous en tapant Camille et Justine. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain numéro. Merci, bye.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.